RFI.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. RFI vous donne la parole comme tous les jours, du lundi au vendredi, dès 8h10, temps universel. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat après la décision du gouvernement français d'augmenter les frais universitaires pour les étudiants non membres de l'Union européenne. Dès la rentrée prochaine, une inscription en licence coûtera 2770 euros au lieu de 170. En master et en doctorat, les frais passeront à 3770 euros. Une décision qui suscite l'inquiétude, notamment au sein des associations d'étudiants africains en France. Cette réforme pénalisera les étudiants les moins fortunés. En tout cas, l'objectif du gouvernement français est de renforcer l'attractivité des universités. Comment ? Eh bien, grâce à cette augmentation des frais, les universités pourront, dit-on, améliorer leur accueil, améliorer le service de logement et tripler le nombre de bourses. La France doit-elle faire payer plus cher ses universités aux étudiants étrangers ? On vous donne la parole dans 30 minutes. D'ici là, vous continuez à nous rejoindre. Vous êtes très nombreux. Beaucoup de témoignages, des réactions en France, mais aussi sur le continent africain. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Florent nous a contacté de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Florent. Et
bonjour Juan, bonjour merci. Bienvenue à Yaoundé.
Merci de nous accueillir au Cameroun. Vous avez des questions sur la lutte contre le paludisme?
Oui, l'OMS a publié son dernier rapport sur le paludisme le 19 novembre dernier. Dans ce rapport, l'organisation précise que la lutte est stagne. Alors, sur ça, j'aimerais savoir comment expliquer que la lutte est au point mort alors que quelques progrès satisfaisants ont été constatés.
Alors, comment expliquer que la lutte est au point mort ? Simon Rosé, du service sciences de RFI, est à mes côtés. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que pour la période 2015-2017, les données recueillies par l'OMS et qui ont donc été publiées la semaine dernière révèlent qu'aucun progrès significatif n'est constaté dans la diminution du nombre de cas de paludisme dans le monde. Comment expliquer que le nombre de personnes touchées par le paludisme stagne, voire même repart à la hausse ?
C'est une question de financement, tout simplement. Les financements stagnent aussi, donc la réponse sur le terrain est un peu au point mort. Pour faire un peu un état des lieux, l'an dernier c'est 219 millions de cas, donc en 2016 c'était 217, 2015 c'était aux alentours de 215, donc on voit bien qu'il n'y a pas énormément d'évolution. 11 pays concentrent 70% des cas quand même. Parmi ces 11 pays, il y a 10 pays africains plus l'Inde. On va les faire vite fait, ces 10 pays. Il y a le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la RDC et la Tanzanie qui à eux seuls concentrent 150 millions des cas. Est-ce que le point de l'OMS, en fait, ce que je disais un peu, c'est vraiment cette question du manque de financement, puisque dans ces pays-là, dans ces 10 pays, il y a 50% de la population qui se trouve en zone palu, qui n'a par exemple pas de moustiquaire imprégné d'insecticides, alors que c'est le moyen pourtant le plus simple de se prémunir du paludisme. Vraiment question de moyens déployés sur le terrain.
Et il n'y a qu'une femme sur cinq qui reçoit les trois doses de médicaments qui peuvent prévenir paludisme au cours de sa grossesse. Effectivement, ce sont des chiffres inquiétants. Ce sont des estimations tout de même. On remet pas en cause la véracité des chiffres publiés la semaine dernière par l'OMS.
L'OMS, c'est sérieux quand même. Ce sont des remontées sur le terrain. Ceci dit, à noter quand même, il y a deux pays africains qui s'en sortent mieux, le Rwanda et l'Éthiopie, qui ont pris un peu le problème à bras-le-corps et qui, eux, ont fait l'effort financier qui va avec. Et pas de secret, du coup, ça marche sur le terrain. Ouais. Et on voit qu'ils sont en progrès.
Florent, vous aviez une autre question.
Oui, que compte faire l'OMS pour la lutte contre l'épidémie et quelle stratégie mettre en œuvre pour résoudre ce problème?
Que propose l'OMS pour renverser la tendance, voire même enrayer le fléau?
Il lance un nouveau plan qui s'appelle un impact fort pour un fardeau majeur. Donc, comme tous les plans, le nom, il est un peu pompeux. Concrètement, l'idée, c'est vraiment de recentrer la lutte sur ces 10 pays-là, en allant beaucoup plus sur le terrain. C'est-à-dire, impliquer les ONG, les populations locales, les services de santé, les gouvernements, pour savoir où sont les foyers, vraiment agir sur place, sur le terrain. Mais, comme on le disait tout à l'heure, ça se fera pas sans financement supplémentaire.
Il faut de l'argent.
On estime qu'il faudrait le double de ce qui est donné aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est à 2 milliards et demi d'euros consacrés à la lutte contre le paludisme.
Il faudrait arriver à 5 milliards d'euros à horizon 2020 si on veut tenir les objectifs. Et pour ça, donc là, c'était le cadre de la réunion de l'OMS à Maputo la semaine dernière, où il y a tous les bailleurs de fonds internationaux, les gouvernements des pays concernés qui sont présents. On a parlé argent. On verra si ça suit derrière. Il faudra que les bailleurs internationaux donnent plus, mais également que les pays concernés soient prêts à mettre un peu la main à la poche s'ils veulent des résultats sur leur pays.
Allez, Florent, a-t-on répondu à vos questions ?
Ah oui, merci beaucoup, merci bien.
Pierre, merci surtout à Simon Rosé du service Sciences. Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.
Il est 9h17 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI, nous rejoint. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Une question football, et on commence déjà à s'intéresser à la Coupe du Monde de 2030.
Ça ne nous rajeunit pas.
Mossadou nous appelle de Conakry, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Juan, comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi, merci d'être avec nous, on vous écoute.
Ok, je dis, après plusieurs candidatures rejetées par l'instance dirigeante du football, la FIFA, le Maroc tente pour la sixième fois d'organiser une Coupe du Monde, et cette fois, il peut compter sur le soutien de ses voisins européens, comme l'Espagne et le Portugal. Cependant, il faut souligner que les négociations sont en cours pour cette candidature commune. Et donc, ceci, j'aimerais savoir pourquoi le Maroc ne veut pas s'associer à ses voisins maghrébins pour cette candidature commune.
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Alejandro Valente. C'est vrai que qu'on parle d'une candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour la Coupe du Monde 2030. C'est vrai que ça peut surprendre, d'autant que ces pays appartiennent finalement à des confédérations différentes, hein, à des continents différents. La logique voudrait, mais ce n'est que de la logique, que le Maroc présente une candidature maghrébine, finalement, avec ses voisins, la Tunisie, l'Algérie. C'est possible ou pas ?
Alors, c'est vrai que le Maroc, après 5 tentatives infructueuses, a pris conscience que pour organiser une Coupe du Monde à 48 pays, il fallait peut-être trouver des alliés, partager un peu le fardeau. Et l'idée d'une candidature maghrébine a été effleurée dès le mois de juin, lorsque la candidature nord-américaine avait été préférée à la marocaine pour 2026. Mais le problème, c'est que ça pose énormément de problèmes. Je pense que les Marocains ne sentent pas trop ça comme quelque chose de porteur. Mmh. Alors, ils sont un petit peu hésitants sur l'attitude à suivre, et ils ont rencontré une autre volonté. C'est-à-dire le Maroc veut organiser 2030, et ils ont trouvé que l'Espagne et le Portugal, qui avaient déjà fait une tentative pour 2018, veulent revenir à la charge pour 2030. Alors, en toute logique, étant des pays voisins, l'idée peut-être de joindre leurs forces à germer, et ça vient plutôt de Madrid, puisque c'est le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui a d'abord essayé de convaincre la Fédération espagnole, qui a même lancé l'idée en septembre dernier lors d'une visite de Gianni Infantino, et qui en a parlé la semaine dernière aux dirigeants marocains.
Et visiblement, le patron de la FIFA trouve l'idée plutôt intéressante. L'Espagne, qui veut organiser quand même un grand événement sportif, hein, on se souvient des échecs notamment pour organiser les Jeux Olympiques à Madrid. L'Espagne également, je crois que voulait organiser la Coupe du Monde 2018,
hein, vous en parlez tout à l'heure avec le Portugal. Mais la Russie avait été préférée à la candidature hispano-portugaise. Donc, c'est deux volontés qui ont envie d'organiser 2030. Alors, ils se disent peut-être que si on s'allie, ce sera plus facile de l'obtenir. Ça permettra de partager un peu le fardeau. Ça pose évidemment beaucoup de problèmes, mais ça peut être une idée intéressante.
Ouais, s'unir, l'union fait la force. Mossadou, vous avez une autre question ?
Oui, Juan, j'ai dit quel intérêt l'Espagne et le Portugal ont à gagner dans cette candidature commune, surtout avec un pays qui se trouve dans un autre continent et dans une autre confédération.
Ouais, c'est une bonne question, effectivement.
Voilà, effectivement, donc ce que je vous disais, c'est que le président de la Fédération espagnole, au départ, il n'était pas hyper emballé. Il se disait, il vaut mieux partir avec le Portugal, c'est plus classique. Mais c'est une volonté politique qui a plutôt conduit à cette idée des candidatures communes. Rien ne dit que ça va marcher. On est aux déclarations d'intention. Après, il faut bâtir cette candidature. Il faudra qu'un des pays en soit un peu le moteur qui va faire la finale, qui va faire les matchs d'ouverture, combien des stades dans chaque pays. Tout ça, ce sont des problèmes concrets et réels, sans parler des problèmes logistiques, les visas, la libre circulation.
Bien sûr.
C'est tout ça, ça va poser beaucoup de problèmes, mais on a le temps d'y travailler.
Oui, et précisons que les candidatures se bousculent pour l'organisation de la Coupe du Monde de football. Il y a notamment un autre trio, celui-ci, les Sud-Américains, Argentine, Uruguay, Paraguay. Et quand on regarde un peu le calendrier, on se dit que ce trio-là a de fortes chances de le remporter, puisque j'ai vu ça en préparant un peu la question. En 2030, la Coupe du Monde célébrera son 100e anniversaire, dont la première édition s'était tenue à...
En Uruguay, bien sûr. Mais il faut quand même penser que 2026 se tient en Amérique du Nord, donc c'est assez difficile à imaginer que deux Coupes du Monde successives se tiennent dans le même continent. Mmh. Puis on a vu ce week-end les difficultés qu'on rencontrait en Argentine pour organiser une finale des Coupes Libertadores. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas si facile que ça. Il y a d'autres projets, Grande-Bretagne, les Balkans, même la Chine. Donc il y aura de la concurrence.
Il y a du monde. Alejandro Valente, bonne journée.
Merci.
Merci à Mossadou de nous avoir rappelé de Conakry où il est 8h21. 339-693-693-70. Vos questions à la rédaction. Et avant de repasser au standard, je vous rappelle que demain, l'historienne de l'art française Bénédicte Savoie et le chercheur sénégalais Felwine Sarr seront nos invités. Ces deux universitaires ont été mandatés par Emmanuel Macron pour réfléchir à la restitution des milliers d'œuvres d'art africaines arrivées en France pendant la colonisation. Vous l'avez suivi sur RFI. Vendredi, ils ont remis leurs conclusions au président français. Dans la foulée, l'Élysée a annoncé la restitution de 26 œuvres réclamées par le Bénin. Jusqu'où la France doit-elle aller dans la restitution du patrimoine culturel africain ? Bénédicte Savoie et Felwine Sarr seront donc demain avec vous et avec nous et répondront à vos questions et débattront évidemment avec vous. Vous pouvez dès maintenant commencer à vous inscrire. 33 9 693 693 70. Bonjour Serge. Vous nous appelez de Brazzaville et vous avez des questions sur la situation sécuritaire dans le nord du Tchad.
Ok. Il y a eu le violent combat à Miski dans le Tibet-Si au nord-est du Tchad. Le ministre de la Défense de ce pays a affirmé que l'armée avait délogé et dégagé l'ennemi dans la localité de Miski. Faux, a rétorqué les jeunes de Miski. Alors, qu'en est-il de cette affaire? De quoi est composé ce comité d'autodéfense et quelles sont leurs revendications?
Oui, c'est vrai que la situation est confuse hein, à Miski, dans le massif du Tibesti, dans le nord du Tchad. Bonjour Ezra Zikoumana.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Serge le disait à l'instant, on a d'un côté le ministère de la Défense qui assure, je cite, que l'ennemi a été délogé, et de l'autre, ce comité d'autodéfense qui affirme avoir chassé l'armée. Qui dit vrai, que sait-on?
Alors justement, c'est difficile vraiment de savoir qui dit vrai entre les deux. Pour une raison très simple, il y a que les deux sources pour le moment. Aucune source indépendante donc sur place, il n'y a pas de téléphone, il n'y a personne qui peut se rendre sur le moment, sur ce terrain. Donc c'est difficile de savoir. Mais une chose est sûre, c'est que le pouvoir prend très au sérieux ce groupe parce qu'il a engagé sur le terrain ses meilleures troupes qui sont dirigées par l'un des fils du président Déby, Mahamat Idriss Déby. L'aviation a été sollicitée à plusieurs reprises ainsi que les chars et d'autres armements lourds, mais les insurgés sont toujours là.
Ouais. Qui sont justement ces insurgés, ce comité d'autodéfense autoproclamé, comme on l'appelle?
Alors, selon le porte-parole de ce groupe Moli Sougui, ce comité peut aligner environ un millier de combattants issus essentiellement des tribus Toubou qui peuplent la sous-préfecture de Yébibou, tout en sachant que Miski c'est la capitale de cette sous-préfecture. Mmh. Ce sont des combattants très aguerris, certains guerrois depuis des dizaines d'années, certains sont passés par l'armée tchadienne, d'autres sont passés par le MDJT, c'est une rébellion tchadienne qui a combattu le président Idriss Déby de 98 à 2002, d'autres enfin se battaient il y a encore peu en Libye. Enfin, il faut savoir que le terrain leur est très favorable. Miski se trouve en effet dans une zone très montagneuse où une armée classique ne peut pas manœuvrer facilement. Intérêt donc que ces combattants connaissent, maîtrisent très bien.
Ils maîtrisent bien. Pourquoi ont-ils pris les armes?
Leur porte accuse le pouvoir tchadien de chercher à chasser la population locale de Miski pour exploiter l'or qu'on trouve en grande quantité dans cette région au profit, c'est ce qu'ils disent, du clan Déby. Pourquoi? Parce qu'il y a des sources qui parlent de contrats qui sont déjà signés avec au moins 3 compagnies internationales.
Parce que c'est une zone aurifère, hein.
Ah oui, absolument.
Il faut préciser aux auditeurs.
Depuis quelques années, on a découvert de l'or dans cette zone. Et donc, des dizaines de milliers de simples citoyens venus de tous les pays voisins s'étaient ruer sur cette, donc une véritable ruée sur l'or pour exploiter leur art de manière artisanale. Mmh. Alors, depuis quelques temps, le gouvernement a lancé une offensive officiellement pour chasser ces orpailleurs clandestins et tous les trafiquants d'êtres humains. C'est ce que officiellement dit le gouvernement. Voilà.
Ouais. Serge nous demandait quelles étaient leurs revendications.
Alors, pour le moment, il n'y a pas de véritables revendications. Ce qu'ils disent, ils disent se battre pour leur terre, ils disent se battre pour que leur or ne soit pas pris. Ils se battent également parce qu'il y a eu depuis quelque temps, il y a eu une réforme administrative très importante où cette zone-là a été, qui appartient normalement à la province du Tibesti, a été rattachée cette fois-ci à la province du Burku. Mmh. Pour eux, c'est vraiment une question d'honneur. Ils disent se battre pour leur honneur parce que ils ont toujours appartenu au Tibesti. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'ils disent, nous nous battons pour d'abord chasser l'armée de la zone et dans un deuxième temps, nous voulons fédérer tous les mouvements qui luttent contre le pouvoir central de Déby.
Merci Ezra Zikoumana d'être venu nous éclairer sur la situation au nord du Tchad. Serge, bonne journée à Brazzaville. Dernière question ce matin, elle nous vient du Cameroun. Bonjour Moustapha.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Ok, la semaine dernière, en Inde, un peuple autochtone appelé les Sentinelles est responsable de la mort d'un citoyen américain qui s'est approché de cette tribu. Juan Gomez, j'aimerais savoir en premier lieu qui sont les Sentinelles. Ensuite, comment vivent-ils étant donné qu'ils sont totalement coupés du monde? Et pour finir, quelles raisons ont poussé cet Américain qui était conscient des risques à s'aventurer près de ces peuples?
C'est une bonne question. C'est vrai que les Sentinelles est un peuple coupé du monde moderne. Et c'est un peuple qui est connu pour attaquer tous ceux qui s'aventurent sur leur territoire. Bonjour Patrick Bernard.
Bonjour.
Ethnologue, président d'ICRA International, une association de défense des droits des peuples autochtones. Ces sentinelles vivent sur une île de l'archipel des Andaman, au large de l'Inde. C'est une île interdite d'accès. Qui sont les sentinelles?
Alors les sentinelles, c'est une petite tribu de chasseurs-cueilleurs itinérants que les premiers navigateurs européens ont qualifié de négrito. Il y a très très longtemps, hein, du fait de leur couleur de peau. Et en fait, ils sont les descendants des plus anciens habitants de l'Asie du Sud-Est et finalement des toutes premières grandes migrations d'hominidés qui auraient quitté l'Afrique il y a plus de 60 000 ans.
Ah oui.
Alors aujourd'hui, on estime leur nombre est très très difficile à évaluer. On l'estime entre 50 et 200 personnes selon les observations qui ont été faites par des hélicoptères.
Et ils vivent en autarcie?
Ils vivent en totale autarcie, les sentinelles. C'est pas du tout un peuple de guerriers, hein, c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs itinérants, mais qui ont entretenu ce besoin de défendre leur île parce qu'ils ont quelque part inconsciemment dans leur gène, sans doute transmis par la tradition orale, le fait que les agressions viennent de l'océan. Et le fait est qu'ils ont été régulièrement agressés ou attaqués par des navigateurs qui croisaient au large des îles Sentinelles.
Ouais. Alors, il nous reste à peine une minute, Patrick Bernard. La semaine dernière, c'était la question de Moustapha, notre auditeur. Cet Américain de 27 ans est mort sous les flèches de cette tribu, en sachant que l'île est interdite. Qu'est allé faire sur place cet Américain?
De toute évidence, il s'agit d'un aventurier prosélyte, hein, nord-américain, qui était porteur d'idées religieuses sectaires et qui était désireux d'aller évangéliser les sentinelles. Alors c'est sûr que si sa mission avait abouti, elle aurait irrémédiablement condamné les sentinelles à une mort certaine, la totalité de la tribu, puisqu'elle aurait ouvert la porte à d'autres envahisseurs de toute nature, des missionnaires, des touristes aventuriers, des braconniers, des forestiers, face auxquels les sentinelles ne pourraient pas résister. Mmh. Et en tout premier lieu, ils auraient été exposés de façon brutale à des maladies et des épidémies contre lesquelles ils n'ont pas d'anticorps.
Ouais, c'est vrai que les sentinelles auraient pu succomber très rapidement aux bactéries. Finalement, bon, c'est une triste nouvelle que la mort de cet Américain, mais en soi, c'est une bonne chose pour les sentinelles.
C'est triste pour lui, mais je dirais que c'est une chance que sa mission ait échoué. C'est une bonne chose pour les sentinelles. Quand on voit l'exemple des tribus voisines, les Jarawa, de l'île de Grande-Andaman, qui n'ont été contactés qu'au début des années 2000, ils sont aujourd'hui frappés par des épidémies de grippe, de tuberculose.
Effectivement. Donc le pire a été évité pour les sentinelles. Merci beaucoup Patrick Bernard, ethnologue, d'avoir été avec nous ce matin.